succès majeur. On tourne la page sur une certaine époque.
On sacrifie une partie de la population pendant encore 5 ans. C'est vraiment décourageant.
Nous voulons réduire le fardeau fiscal des Québécois avec une baisse d'impôts.
Bonjour tout le monde, bon début de semaine. De la colère, des pleurs et de l'indignation. Voici ce qui résume en fait l'état d'esprit de plusieurs personnes qui ont assisté à Rouyn-Noranda au point de presse du ministre de l'Environnement plus tôt aujourd'hui. Benoît Charrette a annoncé que le gouvernement souhaite donner 5 ans à la fonderie Orne pour atteindre les 15 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air. Ça demeure, on le sait, largement plus élevé que la norme provinciale de 3 nanogrammes par mètre cube. Et d'ailleurs, il n'y a même pas d'échéancier là, pour atteindre cette cible dans un avenir rapproché aux grandes dames des citoyens, les attentes qui étaient extrêmement élevées. Et je vais en parler avec ma collègue Anaïs Elbouche-Daini. Bonsoir, Anaïs.
Bonsoir, Sabrina.
Donc, Anaïs, le ministre de l'Environnement a suivi, dans le fond, les recommandations de la santé publique qui avaient été émises la semaine dernière.
Exactement. Et là, l'entreprise Glencore a donc 5 ans pour atteindre cette nouvelle cible. Mm-hmm. Va devoir aussi présenter des cibles intermédiaires pour s'y rendre à ces 15 nanogrammes d'émissions. Et là, pour le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, c'est très clair. Ce n'est pas un souhait, c'est une exigence. Je rappelle qu'en ce moment, la concentration maximale d'arsenic dans l'air pour la fonderie Orne, c'est de 100 nanogrammes par mètre cube. C'est 33 fois plus que la norme québécoise, qui est de 3 nanogrammes par mètre cube. Et aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est aussi que les quantités de plomb et de cadmium sont dans la mire du gouvernement. On parle d'une réduction dans les prochaines années. Et il y a des travaux de décontamination au sol qui vont devoir prendre place. Je te laisse là-dessus entendre le ministre de l'Environnement.
Il y a d'autres conditions qui seront précisées dans cette autorisation, la plus importante étant la plus sensible, celle des 15 nanogrammes. Mais en même temps, ce que l'on a entendu et de la part de la santé publique et des citoyens qu'on a rencontrés au cours des dernières semaines, les fameuses normes quotidiennes. Actuellement, l'autorisation qui est en cours ne contient pas de normes quotidiennes, donc on va venir en ajouter.
Et cette nouvelle-là, bien, c'est mal reçue par les groupes d'opposition.
La colère gronde, mais aussi l'inquiétude. J'ai parlé à des militants de longue date, là, ça fait au moins 4 ans, qui ont rencontré le ministre avant son annonce et qui sont sortis en pleurs, des larmes de rage, qu'on me dit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière, le directeur de la santé publique recommandait une limite temporaire de 15 nanogrammes par mètre cube. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui. Mais ces groupes-là pensaient que ça allait avoir lieu dans l'espace d'un an et non de 5.
Ben ouais.
Parce que c'est un seuil qui permet... et là, je cite le directeur de la santé publique qui disait que ça permet de protéger la santé des bébés à naître, des enfants en bas âge, mais aussi de réduire les risques de cancer du poumon pour la population en général. Et ce qu'a promis aujourd'hui Québec solidaire à Rouyn-Noranda, c'est d'atteindre cette cible-là de 3 nanogrammes par mètre cube s'ils sont élus dans l'espace de 5 ans. Gabriel Nadeau-Dubois dit que c'est le gouvernement qui fait la loi et pas les entreprises. Je te laisse écouter militante et Québec solidaire.
Comme on a déjà une histoire de longue date, puis on est déjà surexposé, on est déjà en bon français scrappé pour plein de monde ici. On a déjà subi l'exposition à tous ces métaux-là depuis plusieurs années. Donc, on se disait, ben là, ils vont donner un grand coup, puis on va commencer à 15. 15 et comme. Parce que nous, dans le fond, notre choix, ça serait 3, là, c'est sûr, demain matin.
La question, c'est pas de savoir si les solutions existent, mais combien ces solutions-là vont coûter. Et l'entreprise a les moyens d'investir 8,5 milliards de dollars dans les poches de ses actionnaires depuis le début de 2022. Ils ont les moyens d'investir.
On parle de signature de l'autorisation ministérielle d'ici la fin novembre, mais d'ici là, il va y avoir des consultations publiques du 6 septembre au 20 novembre.
Tout à fait, 20 octobre, oui, exactement, pendant la campagne électorale. Merci beaucoup, Anaïs.
Merci.
Maintenant, le ministre des Finances a déposé aujourd'hui le rapport préélectoral sur l'état des finances publiques. C'est un exercice qui est obligatoire depuis maintenant quelques années et qui permet en fait aux partis politiques d'avoir leur juste sur les finances du Québec avant le déclenchement d'une campagne électorale. On va en parler avec Simon Bourassa qui est à Québec. Salut Simon.
Salut Sabrina.
Donc malgré beaucoup d'incertitudes économiques, le ministre se réjouit parce que les finances du Québec vont bien et vont continuer de bien aller dans les prochaines années.
Ouais, l'inflation, ça fait mal au portefeuille des contribuables, mais pour les finances publiques, bien, ça veut dire plus de revenus, heureusement ou malheureusement, dépendamment où on se trouve. Donc, au dernier budget, pour vous donner une idée, en mars dernier, on prévoyait un déficit de 6,45 milliards de dollars pour 2022-2023, la prévision qui a fondu à 700 millions de dollars. Donc, plusieurs milliards de plus dans les coffres de l'État en impôts, autant chez les particuliers que chez les entreprises. Il faut dire que l'inflation, ça a plus d'impact sur les revenus que sur les dépenses, même si ça coûte plus cher pour construire des infrastructures, par exemple. Donc, qui dit percevoir davantage d'argent en impôts peut vouloir dire également aussi baisse d'impôts. C'est ce qu'a promis le ministre des Finances, Éric Girard, aujourd'hui. S'est engagé, là, au nom de son parti, à réduire le fardeau fiscal des contribuables. On l'écoute.
Les Québécois sont les citoyens les plus taxés en Amérique du Nord. Alors, on parle de viser une baisse d'impôts qui viserait l'impôt sur le revenu des particuliers, mais ça devra être fait de façon ordonnée et responsable. Les Québécois supportent un fardeau fiscal qui est approximativement 4 à 5 % supérieur en proportion du PIB que la moyenne des autres provinces canadiennes. Alors, c'est important. C'est important que ce soit bien fait.
Et là, le rapport du ministre a été soumis à la vérificatrice générale et selon elle, les hypothèses proposées par le ministre sont plausibles.
Oui, ça passe le test de la vérificatrice générale. C'est obligatoire, là, lors du dépôt de ce rapport par le ministre des Finances, de le faire authentifier par la vérificatrice générale. Ce qu'elle dit, par contre, c'est que le gouvernement du Québec n'a pas fait le même exercice qu'au fédéral. C'est-à-dire qu'au fédéral, on a prévu un scénario en fonction d'une récession économique importante. Donc, un scénario, si on veut, catastrophe. Ce qu'a pas fait le ministre des Finances, elle aurait aimé ou l'aurait trouvé ça utile que Éric Girard le fasse.
On voyait très bien s'il y avait un ralentissement plus important que ce qu'il avait prévu, quel serait l'impact sur le surplus ou déficit? Et de cette manière-là, les différents politiques sont mieux outillés pour pouvoir prendre des décisions qu'ils veulent prendre dans leur plateforme électorale.
Donc, parlant d'élection, c'est signe que ça s'en vient. Sabrina, là, Élections Québec a commencé à distribuer le matériel électoral, donc les urnes, les isoloirs, les papiers, les crayons, bref, dans les circonscriptions du Québec dès aujourd'hui. Ils vont faire ça toute la semaine. Une élection qui va coûter 21 millions de dollars de plus qu'en 2018 pour un total de 115 millions de dollars.
Tout à fait. Merci beaucoup, Simon.
Au revoir.
Donc voilà, Simon nous disait qu'Élections Québec se prépare pour la prochaine campagne électorale, mais elle n'est même pas encore commencée, mais on a vraiment l'impression qu'on est déjà dedans. Il manque pratiquement juste les pancartes des candidats dans les rues. Et il y a déjà beaucoup de choses à analyser. Et justement, on va aller faire ça avec notre collaborateur Dominique Vallière. Bonsoir, Dominique.
Bonsoir, Sabrina.
Bon, j'aimerais qu'on parle du Parti conservateur du Québec parce que Éric Duhaime a déjà sorti sa plateforme électorale. C'est quand même très, très tôt, là.
C'est très tôt, mais c'est une analyse réaliste des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les partis vont entrer dans la danse avec les caravanes, les autobus et tout ça, il y aura moins de place pour les propositions du Parti conservateur du Québec. Alors, c'est pourquoi il a décidé de les lancer plus tôt pour susciter des débats avec notamment plus de place en privé et en santé, le retour des chèques aux familles pour les enfants et toutes les questions donc d'éducation. Et si on veut cliver, c'est le temps de le faire. Alors, il a vu que là, était sa fenêtre et c'est pour ça qu'il l'a fait. Il y a d'autres partis pour qui c'est codifié. Je vous donne un exemple. Le Parti québécois sort toujours sa plateforme le premier samedi suivant le déclenchement de l'élection. Mmh. Mais pour les autres partis où on a plus de latitude, comme le Parti conservateur, on y va un peu quand on veut. Malheureusement pour lui, c'est sûr que quand le ministre des Finances passe le lendemain et dit « on va baisser les impôts », je ne sais pas lequel des deux va survivre le plus longtemps médiatiquement.
C'est vrai, ouais, c'est un peu difficile d'avoir lancé tout ça avant d'avoir vu, en fait, ce fameux rapport préélectoral. Puis là, il a quand même déjà mis toutes les cartes sur table. Qu'est-ce qui va rester au Parti conservateur à faire comme annonce pendant la campagne?
Généralement, quand on sort sa plateforme le plus rapidement possible, on y va pour en parler durant une semaine, deux semaines, trois semaines, et après ça, on décide de s'accrocher au sujet du jour. Mm. Donc, si le sujet du jour est une controverse, on y va à pieds joints dans la controverse. Si c'est un autre parti qui fait une proposition et qu'on veut réagir, on va réagir comme ça. Ça nous permet d'être plus facilement dans les bulletins de nouvelles et de ne pas avoir l'air déphasé par rapport au reste de la campagne. Si tout le monde parle du sujet A et que toi, tu es tout seul à parler du sujet B, des fois, les électeurs se demandent ce qui se passe.
C'est vrai. Maintenant, Parti libéral, qui a dévoilé son slogan en fin de semaine, « Votez vrai, vrais enjeux, vraies solutions », t'en penses quoi?
Généralement, quand il y a un slogan, on vise qu'il y ait trois éléments. Le premier, c'est qu'il soit facilement répercutable. Donc, voter vrai, on peut dire en santé, il y a des vrais enjeux pour lesquels on a des vraies solutions, en éducation. Donc, ça se décline assez facilement. Selon moi, donc, ça passe la rampe. Ensuite, on veut que ça soit court et punché. Et j'ai essayé de le dire 4 ou 5 fois rapidement, ça devient quasiment un vire-langue.
Alors, c'est je suis pas sûr. Un exercice de diction.
Exactement. Alors, je suis pas sûr qu'on atteint l'objectif de ce niveau-là. Et finalement, on veut quelque chose qui nous permet de nous définir clairement par rapport à l'adversaire. Or, dans tous les sondages qu'on voit, quand on dit qui est la personne qui est la plus authentique, avec qui avez-vous envie d'aller prendre une bière, c'est pas Dominique Anglade. C'est François Legault. Mmh. Donc, je m'attendais, après plus de 2 ans où les libéraux disent que la gestion de COVID, ça a manqué de rigueur, c'était tout croche, qu'on y aille sur ce thème-là plutôt que d'y aller sur l'authenticité comme ils le font.
Effectivement. Merci beaucoup, Dominique Vallière, d'avoir été avec nous ce soir. On se reparlera bientôt.
Merci. Bonne soirée.
Alors, il y a un an, jour pour jour, les talibans se sont emparés de Kaboul, la capitale afghane. Depuis le retour au pouvoir et le départ des puissances étrangères, eh bien, l'Afghanistan s'est transformé. Derrière ce qui semble une victoire pour ces combattants talibans, le pays souffre. Il y a des millions d'Afghans qui vivent dans la pauvreté et les femmes ont vu leurs droits à l'éducation et au travail s'envoler. Pour en parler, je vais aller rejoindre Victoria Jaesh. Elle est directrice générale du Centre des femmes afghanes de Montréal. C'est un organisme qui aide les femmes immigrantes à rompre l'isolement social. Bonsoir, Mme Jaesh.
Bonsoir.
Donc, ça faisait quand même une 20aine d'années que les femmes avaient réussi à s'émanciper en Afghanistan. Depuis un an, on le voit, leurs droits régressent. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce qui arrive actuellement dans ce pays?
C'est vrai que la vie pour les femmes ou pour les filles afghanes depuis une année... C'est pas vraiment facile. Le droit d'éducation s'est rompu, je dirais, puis ils sont tous emprisonnés. En Afghanistan, ils ont un espoir de soit quitter l'Afghanistan, fuir l'Afghanistan, je dirais, ou bien revenir à leur vie normale. Mm-hmm. Vraiment, ils vivent avec avec la peur. Puis en même temps avec un espoir pour qu'ils puissent en sortir de cette...
En sortir. Est-ce que vous connaissez encore des femmes qui habitent là-bas? Est-ce que vous avez contact avec des femmes?
Oui, effectivement, nous avons des contacts avec des femmes qui habitent présentement en Afghanistan, à Kaboul, qui sont vraiment bien très éduquées, puis ils restent... sans le salaire ou sans l'éducation, ils n'ont pas droit d'éducation. Ils restent vraiment à rien faire.
Mais je veux dire, à ce moment-là, c'est quoi l'avenir pour, par exemple, les jeunes femmes qui n'ont plus accès à aller à l'école? À quoi se résume leur vie présentement?
C'est vrai qu'il y a 20 ans, c'est arrivé cette situation pour les femmes ou pour les filles afghanes. Il y a plus que 20 ans, je pense. Puis le retour des talibans, c'est ça que ça leur fait beaucoup peur. Puis ils croient que ça va rester tout le temps comme ça. Mm. Ils ont vraiment toujours l'espoir de fuir l'Afghanistan.
Tout à fait. J'aimerais peut-être qu'on essaie de savoir aussi, de comprendre pourquoi les talibans perçoivent les femmes comme ça. Pourquoi ils décident de leur retirer tous leurs droits?
C'est une bonne question. C'est une question qu'on voulait aussi poser aux talibans. Vraiment, c'est on a l'impression que pour les talibans, voir les filles qui viennent d'être adolescents ou dans un certain âge, peut-être pour ceux qui sont jamais vu vraiment la vie normale ou la civilisation, on a l'impression que voir les femmes avec ses belles yeux ou son corps, tout ça, c'est trop provocant peut-être. Pour ça que il élimine ces droits-là.
C'est ça.
ou bien il interprète d'une manière comme si dans la religion chariat, c'est interdit pour les femmes ou pour les filles qui sont âgées plus que 12 ou 13 ans d'aller faire ses
Tout
études.
À fait.
C'est que c'est pas
Tout à
pas
fait.
Vrai.
Mais bref, c'est consternant quand même de voir qu'en 2022, il y a des femmes comme ça qui sont réduites au silence, qui ne peuvent même plus travailler ou même aller à l'école. Merci beaucoup, Mme Jaesh, d'avoir témoigné ce soir.
Ça fait plaisir.
En tant que mairesse de la métropole du Québec, je m'attends à ce que le prochain gouvernement du Québec partage la vision d'avenir des Montréalaises et des Montréalais.
Alors, vous en parlez un petit peu plus tôt, hein, la campagne électorale provinciale approche à grands pas. Et en conférence de presse aujourd'hui, la mairesse de Montréal s'est adonnée au dévoilement de la traditionnelle liste de demandes aux partis politiques pour le prochain mandat. J'en parle avec mon collègue Emmanuel Leroux-Néga. Bonsoir, Emmanuel.
Salut, Sabrina.
Donc, quelles sont les principales demandes qui ont été formulées par la mairesse?
On n'a pas eu trop de détails aujourd'hui. La mairesse a entre autres demandé à ce que le prochain gouvernement l'aide financièrement dans la lutte contre la violence armée dans la métropole. On sait que c'est un enjeu en ce moment. Elle a aussi demandé au prochain gouvernement d'investir davantage dans le logement social. Donc là, comme vous allez voir dans la clip, ça s'axe, tout ça s'axe principalement au fait de la autour de la principale demande de la mairesse, c'est-à-dire une refonte du pacte fiscal entre Québec et les villes.
Le modèle archaïque de la taxe foncière, parce qu'on dépasse à 70 % de la taxe foncière, ne tient plus. Pour assurer nos responsabilités, qui sont de plus en plus importantes, pour réussir la transition écologique, on a besoin de nouvelles sources de revenus qui sont stables. Puis pas au prochain pacte fiscal dans deux ans, maintenant.
Et est-ce qu'on peut dire que Valérie Plante a fait un petit peu les choses à l'envers aujourd'hui, non?
Oui, d'habitude, la maire ou la mairesse soumet une liste des prix précises, chiffrées, et demande aux partis politiques de prendre position pour ou contre. Là, elle a plutôt soumis une vision idéologique de la ville en environnement, en mobilité, et a demandé aux partis politiques comment ils allaient l'aider à accomplir cette vision. C'est une façon de faire qui n'a pas trop plu à l'opposition, comme vous allez l'entendre.
Les demandes qu'on a entendues aujourd'hui, c'est une demande que « alignez-vous à ma vision ». Il n'y a pas de demandes qui ont été chiffrées clairement dans les propositions de la mairesse aujourd'hui. À la dernière campagne électorale, Mme Rouleau, elle-même ministre de la Métropole, avait dit clairement à Mme la mairesse « commencez d'abord par dépenser l'argent qu'on vous a donné avant d'en demander plus ».
Et comme on le sait, là, durant les 4 dernières années, la mairesse et le premier ministre François Legault ont rarement été sur la même page idéologique. Et donc là, alors que les sondages favorisent largement la CAQ, la mairesse s'est retenue de prendre position pour un parti ou pour l'autre. Mais elle a quand même insisté pour dire que la campagne était très loin d'être terminée.
Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci.
C'est la fête nationale des Acadiens aujourd'hui. C'est un événement qui est célébré depuis 1881. Il y a de grandes célébrations qui sont prévues, qui vont culminer notamment avec le traditionnel grand tintamarre du Festival acadien de Caraquet au Nouveau-Brunswick. C'est une fête qui est importante parce que les Canadiens ont grandement contribué à façonner le Québec et aussi les Maritimes, comme on le connaît. Alors, j'accueille en studio le président de la Fédération acadienne du Québec et historien Sylvain Godette. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonjour.
Donc, d'abord, peut-être une question qui peut sembler banale, mais ce sont qui les Acadiens?
Les Acadiens, ce sont les descendants de l'Acadie ancienne, qui était le territoire de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard qui s'appelait l'île Saint-Jean, le Cap-Breton. C'était ça, l'Acadie. C'est des Français qui sont venus s'établir là à partir de 1604, mais surtout 1632. Mm-hmm. Et ils sont multipliés si bien qu'en 1755, il y avait à peu près 14 000 Acadiens acadienne au moment du déclenchement de la déportation, c'est-à-dire leur dépossession, leur expulsion de l'Acadie.
Exactement. Avec la déportation, on a vu dans le fond que la diaspora acadienne, elle est un petit peu partout, là, à travers l'Amérique du Nord même, oui. Parce que la Louisiane, c'était un territoire
oui.
francophone.
Puis là. En France aussi. Oui. À un moment donné, il y avait 3 000 à 4 000 Acadiens dans les ports de Saint-Malo, Saint-Servan, Nantes. À Belle-Île-en-Mer, il y a une île qui était où il y a des descendants acadiens, si bien que Paul Robert, du Petit Robert, il dédicace une de ses éditions à ses ancêtres acadiens. Mm. On raconte que Jules Verne, qui est né à Nantes, a un Acadien dans sa généalogie. Mais ces Acadiens-là de France, il y en a qui sont revenus en Louisiane, justement, mais au Québec, c'est au Québec qu'il y a le plus de descendants acadiens aujourd'hui.
Mais imaginez, vous êtes arrivé, ça fait quoi, peut-être une demi-heure? Puis depuis une demi-heure, tous les employés ici, on se disait, je pense qu'on a des descendances acadiennes. Moi, la première, j'ai une arrière-grand-mère qui est acadienne. Visiblement, on le voit beaucoup dans le paysage québécois, là, tout ça. Puis on le fête aussi maintenant au Québec, les Acadiens.
Oui, c'est ça. Depuis, tu as dit tout à l'heure, 1881, on a commencé à fêter ça. Mais l'année d'avant, 1880, il y a une grande Saint-Jean-Baptiste à Québec, il y a une délégation acadienne. Et c'est là qu'il lui vient l'idée, on va faire ça dans les Maritimes, au Nouveau-Brunswick. On va choisir un drapeau et une fête. Et le tintamarre, il va venir plus tard, au 20e siècle.
C'est quoi le tintamarre? Parce qu'on veut faire le plus de bruit possible.
Pour montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'on a perduré, notre culture a survécu et on s'affirme comme ça. Puis au Québec, bien, dans les régions du Québec, Lanaudière, l'Acadie, près de Saint-Jean, c'est un village fondé par les Acadiens.
Tout à fait.
Saint-Grégoire-Nicolette, évidemment, la baie des Chaleurs.
Donc, on a tous une petite raison de fêter l'Acadie ce soir. Merci beaucoup, M. Godet, d'avoir été avec nous.
Merci.
Alors, c'est Étienne Fortin-Gauthier qui va vous accompagner ce soir au fil 22h. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Sabrina.
Donc, à quelques jours de la rentrée scolaire, il y a Québec qui dit que les lecteurs de CO2 ont maintenant été livrés dans les écoles.
Oui, tous installés, 90 000. Ça fait longtemps que ça fait débat.
Ça fait deux ans.
Puis en Ontario, ils ont été installés beaucoup d'avance sur nous. Mais là, 90 000 lecteurs de CO2 installés dans toutes les écoles au Québec. Également 1 400 changeurs d'air. C'est une promesse qui a pris du temps à être livrée. On dit à cause des enjeux d'approvisionnement, ça a touché également ces technologies-là.
Et là, on a le Québec qui lance une nouvelle campagne de vaccination pour la fameuse dose de rappel pour la COVID-19.
Exactement, pour les aînés, donc en CHSLD, en résidence pour personnes âgées. Puis ça survient alors que la Grande-Bretagne, on apprend à autoriser le nouveau vaccin Moderna pour s'attaquer à Omicron. Il n'a pas été autorisé encore chez nous, mais évidemment, ça va poser bien des questions. Est-ce qu'on prend le vaccin maintenant ou encore le prochain? Mais pour l'instant, bien, chez nous, ce n'est pas autorisé. Puis on sait qu'on suggère le vaccin aux 5 mois. Donc, ça dépend de votre situation.
Ça va dépendre.
On va en parler avec un peu Alain Vadeboncœur, qui sera notre invité, qui va parler de son nouveau livre également.
Un nouveau bouquin pour Alain, notre collaborateur. Génial. Bon, bien, parfait. On va t'écouter ce soir, Étienne, aux 22h. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain dès 17h30. Bonne soirée.